eu des moments de gens qui se touchaient dans le ciné à votre séance?
Non.
Never.
Non, je pense pas, non.
Moi, ça m'est arrivé une fois, juste, voilà.
Moi, j'ai des gens qui se galochaient et je suis sûr qu'ils se tripotaient, mais je suis pas allé vérifier, quoi. Mais c'était tellement des mouvements un peu trop pas naturels sur une chaise de cinéma, enfin, sur un fauteuil de cinéma.
Zach Morris, vous irez écouter Serial Causeur en retenue.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur spécial été. Pourquoi les ados ne font-ils plus l'amour, s'interroge France Inter. Si les genres se multiplient, le sexe, lui, est toujours singulier, singulièrement tabou, singulièrement traité. Bref, on parle hormones et plaisir dans Serial Causeur. Autour de moi, les spécialistes du plaisir oral, je parle évidemment de podcast, Stéphane, Maxime et Aki.
C'est un peu chaud, mais oui, bon, bonjour.
Je ne me sens pas concerné.
Je prends.
Alors, comment en est-on arrivé à avoir du sexe dans les séries? Comment le plaisir nous a été proposé? Comment en est-on arrivé là? On essaie de répondre à tout ça dans cette émission, avec notamment un retour sur The Idol. On ne vous fera pas un historique du sexe dans les séries, ni un topo sur la représentativité des sexualités. On va juste parler de ce qui nous titille. Alors, le saviez-vous? Mary Kay et Johnny, la première série à montrer un couple partageant un même lit. Et ça date de 47.
Ouais. C'est dans le même lit ou c'est dans les lits séparés où on les voit coucher?
C'est dans le même lit, justement, non?
C'est un peu le débat, quoi. C'est que des lits séparés mais qui sont rapprochés.
Ouais, voilà. Ah, il me semblait que c'était une histoire comme ça. Oui, ça me parlait. Ouais.
Et c'est la première série avec une femme enceinte aussi.
Wow.
Donc, ouais. Il découvre la vie en 47, quoi.
Ah, bah, après la guerre, ouais, c'est ça, normal.
Bon, okay. Passons au cul. Du cul. The Idol, disponible.
C'était une référence, je tiens à le dire quand même. Ce gif est incroyable et Sophie, on pense à toi. Du cul.
Donc The Idol, qui est disponible sur le pass Warner chez nous sur Prime Video. La série de Sam Levinson, donc, qui est derrière Assassination Nation et Euphoria, qui nous propose donc l'histoire de Jocelyn, une pop star, et de donc interprétée par Lily Rose Depp. Et un Pygmalion un peu chelou qui est The Weeknd. Alors, est-ce que tout ça pour ça, Stéphane?
Oh bah, clairement.
Dans les deux sens, c'est-à-dire, est-ce que toute cette hype négative pour pas grand-chose, ou alors finalement, est-ce que la série sert à quelque chose?
Alors, non, c'est surtout la hype, je sais pas si on peut appeler ça, ça a créé du scandale quand ça a été diffusé à Cannes. Il y avait eu des sales retours déjà dès le départ, il y a des rumeurs sur les coulisses, à cause de Sam Levinson qui se fait taper sur les doigts depuis la saison 2 de Euphoria. Enfin bon, bref, tout ça, ça faisait un sale mélange qui faisait que ça sentait un peu le soufre. Et puis la série est arrivée, et puis c'est un soufflé, quoi. Enfin... C'est même ridicule. C'est faussement provoque. Il y a des scènes de male gaze qui sont juste ridicules. Sam Levinson, il laisse traîner sa caméra sur le corps de Lily Rose Depp, mais bon, en soirée dans du soft porn de M6 du dimanche soir, là. Enfin, c'est d'une tristesse absolue, quoi. Il n'y a rien. Donc, hormis la petite critique de l'univers de l'industrie musicale. Voilà. Cette série, c'est juste triste.
Bah, c'est un peu un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Que ce soit sur le sexe, ou même en termes de série, ou même en termes de marketing, de com.
Non.
Quand même.
Vous êtes dur, quand même.
Tu peux le tutoyer.
Non, mais ça se regarde, mais c'est pas aussi mauvais que tout le monde prétend que ça l'était, quoi.
Ah, enfin, j'ai pas, une bonne chose.
Non, mais j'ai pas dit que c'était la Bréa non plus. mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont construit une série sur une bonne idée, puis après, ils l'ont laissé pourrir en changeant plein de choses, notamment, de se passer d'une coordinatrice d'intimité. En termes de communication, ils ont essayé de noyer le poisson, et après, en disant que c'était un peu du wokisme, sur leur série, quoi. Et les acteurs se sont enfoncés là-dedans, et c'est là le bad buzz, en fait. C'est qu'il n'y a personne qui s'est dit à un moment, ah ouais, peut-être qu'on a merdé, un mea culpa, quoi. Et
c'est
ça, je trouve que c'est... Oui, c'est tout ce que tu ne peux plus faire en 2023, surtout quand tu traites du sexe.
Oui. C'est ça le problème, c'est que ça traite pas de sexe.
Oui, mais ça veut traiter du sexe.
Parce qu'au final, ça ne met même pas ce sujet-là sur la table.
Ah oui, tu veux provoquer en montrant du sexe. c'est tout.
Non, mais même Jocelyne, elle a des plaisirs solitaires un peu qui sont comme si elle se, on va dire, se scarifiait, des trucs comme ça, tu vois. Oui. C'est pour elle, ça vient de là. Tu vois, quand elle se touche avec un.
Je suis sûr qu'on puisse faire l'apologie de sa scarification, là.
C'est comme ça qu'il l'explique. C'est comme ça qu'il l'explique, en fait, qu'elle a un problème avec le sexe et que c'est comme ça qu'elle résout un peu son problème de page blanche et ses problèmes avec sa mère. Mais donc, du coup, ils font quand même du sexe quelque chose qui doit raconter quelque chose du personnage. C'est juste qu'ils le font très mal. Ils utilisent le sexe. C'est pas grave d'utiliser le sexe pour raconter quelque chose des personnages. Au contraire, enfin, toutes les séries et tout le cinéma le fait. Enfin, c'est pas The Idol qui l'a inventé, hein, loin de là. C'est juste qu'ils ont décidé de le faire d'une manière où, bah, désolé, mais en fait, vous le faites super mal et c'est ultra cringe. Enfin, moi, c'est après le premier épisode, c'est comme ça que je me suis vraiment.
Est-ce que t'es pas allé au bout de la saison?
J'ai regardé un bout du 2 et vraiment, je me suis dit, ouais, non, j'ai pas envie d'être torturé.
Ma position, c'était de ne pas le regarder, comme vous le savez, j'ai dû le mentionner dans un autre numéro. Bon. Et en fait, quand j'ai vu les choses passer, enfin, les articles passer et dire qu'on a supprimé, enfin, un épisode n'avait pas été diffusé, enfin, ça veut tout dire, non?
Non, en plus, c'est pas ça. Tu vois, c'était de la fausse information. Il a réécrit son scénario, parce que Sam Levinson est arrivé après, il a réécrit son scénario, mais en fait, on lui avait commandé 6 épisodes, mais lui, il a réussi à boucler tout en 5.
Oui, parce qu'il a jamais rien à dire de toute façon. Donc bon.
Dans le cinquième, en plus, c'est très très long pour pas grand chose.
Oui, voilà, c'est ça. Donc
scène de chant et de danse.
Oui, ben la première, les 35 premières minutes, ben, c'est juste des gens qui font, c'est de la musique, quoi. C'est un concert, quoi. Donc c'était très bien. Mais donc les gens se sont emballés parce que comme il y a eu des rumeurs, on disait que oui, ben voilà, on leur avait supprimé un épisode, que c'était pas la vraie fin. Bon, ben, en fait, non. Donc.
Mais c'est arrivé très tard aussi cette info. C'est aussi ça qui est un peu bizarre.
Et c'est quand même très, très étonnant, je trouve, de la part d'HBO d'avoir laissé faire ça, parce que HBO fait partie des premiers à utiliser le sexe comme un outil de narration, et comme un outil de narration aussi, même s'ils ne le font pas toujours bien, c'est une de leurs marques de fabrique, quoi. Mais là, ils ont décidé de se passer de coordinatrice d'intimité, alors qu'ils l'ont fait sur plein de leurs productions, c'est les premiers à l'avoir fait aux États-Unis. Et moi, j'ai regardé le premier épisode, justement, au départ, j'étais un peu comme Aki, je ne voulais pas regarder. Je me suis dit, je n'ai pas à m'infliger ça, je sais que c'est problématique, mais à cause du travail, j'ai dû regarder le premier épisode. Et j'ai été vraiment ultra étonné de voir ça de la part de la chaîne qui fait référence un peu dans cette matière-là, quoi.
On est d'accord que le moment où il enferme le coordinateur d'intimité, c'est dans le premier épisode, hein.
Oui, c'est un shade total.
Enfin, j'ai trouvé cette scène-là très problématique, mais bon, après, voilà quoi.
Ouais, c'est un gros fuck.
Ah c'est un gros fuck à l'industrie du cinéma, quoi. Mais oui, mais bon. Bref.
Moi, je ne voyais pas comme ça, mais vu que ça critique justement les débordements, peut-être que. Enfin, je ne sais pas, ça fait peut-être partie. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Enfin, que ça me sortait de la fiction.
Ah non, ça me sortait pas de la fiction. Mais la ligne de crête entre la critique et l'autre versant, je trouve que Sam Levinson, là, c'était plus du mauvais versant que de la critique, quoi. Il te dit sous couvert de critique, je vais vous montrer des choses pour que vous disiez, ben voilà, ils exagèrent, mais c'est parce qu'en fait, non, ça marchait pas, quoi.
Justement, il y a un article de, je crois que c'est Rolling Stones qui en a parlé, où il disait que le scénario de base avec les personnes qui étaient prévues sur la série, c'était une vraie satire, c'était une vraie critique, et en fait, Sam Levinson, en arrivant, a tellement perverti le scénario pour y intégrer ses fantasmes et ceux de The Weeknd, que tout ce qu'il critiquait est devenu, en fait, critiquable.
Oui, c'est ce qu'il disait. Enfin, c'est ce que disait l'article.
Alors après, je sais pas. Alors moi, c'est là où aussi je me pose des questions sur The Weeknd, tu vois, parce que je l'aime beaucoup. Depuis que j'ai vu la série, je suis en train de me poser des questions quand même sur le mec. Et je sais pas quel est son niveau d'implication dans les scénarios, dans ce qu'on lui a.
Il prétend avoir eu son mot à dire. Alors je sais pas quelle est la vérité. D'ailleurs, on dit The Weeknd, mais disons quand même son vrai nom parce qu'il est quand même crédité avec son vrai nom. Hein. Voilà.
Oui, puis il va changer de nom, donc bientôt,
il
va disparaître. Oui.
Lui, il va s'appeler lundi comment ?
Il va s'appeler Abel Tesfaye.
Il va prendre son vrai nom. Ouais. En fait. Oui. Okay.
Mais oui, c'est vrai que ça pose question sur sa musique à lui aussi, quoi.
Alors, parce la musique, je ne sais pas, parce que...
C'est View Tears, je l'écoute d'un nouvel regard, d'une nouvelle oreille,
C'est vrai que moi aussi, j'ai un peu... Enfin bon, c'est très particulier, mais tu vois, c'est pour ça que je suis triste qu'il se soit jeté dans ce truc-là. Ou alors, tant mieux, comme ça on se pose la question de savoir qu'en fait c'est peut-être un gros connard et voilà quoi.
Bah, moi je me suis demandé si lui c'était pas juste un ego trip de se dire je vais avoir ma propre série.
C'est
oui, mais de valider un scénario pareil, un rôle pareil, qui ouais. Il aurait dû dire non quoi.
Bah, il produit, il a écrit les chansons, enfin tu vois que c'est vraiment son truc aussi quoi.
Oui, par contre les chansons sont bien, comme d'hab. Voilà. Mais le rôle qu'il a et la série.
Du coup, on est n'est que deux à l'avoir vu là, donc vous aurez des retours de mâles hétéro sur la série, mais.
C'est ça la vérité aussi hein.
De suite.
Bah,
c'est ça. Qu'est-ce qui nous a pas fait regarder vous?
Parce que justement, c'est une série qui au final a été faite pour des mâles hétéros. Le point de vue féminin, il est inexistant. C'est là le problème pour moi dans la série, ou en tout cas dans la manière dont elle aborde la sexualité, c'est que le point de vue féminin est totalement inexistant et est expliqué par l'homme. N'est même pas expliqué par elle, en fait. C'est limite lui.
Alors, tu serais surpris, justement, parce que t'as pas vu la série, quoi. Parce que c'est ça, c'est que, justement, il y a
un twist.
Un renversement.
Oui, ou alors ils se disent, oui, oh là là, on a pensé à ça, et en fait, pas du tout, quoi. C'est encore une autre manière. Bref, on s'en fiche.
Bon, on va spoiler, hein, Stéphane, parce que de toute façon...
De toute façon, en fait, c'était même pas... Quand tu vois l'épisode 3, tu te dis, oui, ça va tendre vers ça, et au final, ça tend vers ça, donc...
Tu crois que c'est The Weeknd qui la manipule, mais en fait, c'est elle qui manipule...
Bien sûr.
Bah, si.
Je veux dire, dans l'histoire, ouais, c'est facile de dire qu'en fait, le pouvoir, c'est la fille qui l'utilise grâce à son corps ou grâce à...
Mais que ça soit l'un ou l'autre, ça n'aurait pas été, du coup.
Oui, non, clairement, parce qu'on n'utilise pas le sexe et la torture pour pouvoir avancer dans la vie, mais bon, après...
Je n'ai pas vu ça comme ça, mais...
En soi, le personnage de Tedros ou même celui de Jocelyne sont tous les deux très problématiques. Les gens sont problématiques dans cette série et ceux qui ne le sont pas disparaissent à la fin.
Ce serait abusé de dire que il n'y a que les hommes qui ont un problème avec le sexe. Enfin, c'est une industrie. Oui, c'est même dans le milieu gay, il y a des problèmes avec le sexe. Hein. C'est pas. Vous n'avez pas ce privilège-là en plus.
Oui, et puis il y a même des personnages queer dont on sait que dans la série, c'est problématique aussi. Enfin, tout est problématique. Tous les gens ont des problèmes avec le sexe, donc c'est peut-être comme ça qu'ils se sont retrouvés tous ensemble. Là,
bon, la question, Stéphane, est-ce que Lily Rose Depp s'en sort?
Oui. Malheureusement, je sais pas, mais c'est pour moi c'est une bonne surprise. Je détestais Lily Rose Depp.
C'est quand même assez dur quand même à faire. Rien que le début déjà. Enfin, je trouve que toutes les émotions en 5 minutes.
Tous ces rôles se ressemblent personnellement, mais bon.
Bah alors c'est parce qu'elle sait pas non plus super bien jouer, mais au contraire elle s'en tire beaucoup mieux que dans ses autres rôles quoi.
Et The Weeknd n'est pas si nul que ça.
Un épisode sur deux, il est mauvais.
Ouais.
Voilà.
Oui. Et c'est vrai que dans le dernier, il est très mauvais.
Comme dans le premier, sauf dans le troisième. Dans le troisième, il est bon, mais voilà.
Ça fait beaucoup sur 5 quand même. Hein.
Ben oui, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste, ouais.
Et pour en venir au sujet même donc du plaisir des sens, moi, ça a marché pour moi en tant que mâle hétéro de base, quoi.
Mais ça aussi, enfin...
Enfin, ça a marché, je veux dire. Pas les scènes de sexe, mais Lily Rose Depp, je trouve qu'elle est très bien. Mais les scènes de sexe sont d'une ringardise. J'ai l'impression qu'on était dans les années 90, quoi, avec le saxo et la vieille guitare électrique. C'était ça. Et puis, t'as une scène de bain, t'as une scène de... Enfin, tous les clichés de scènes de sexe, tu les as, quoi.
Mais du coup, par contre, t'as plus...
Je termine par rapport à le petit truc qui, je trouve... j'ai pas retrouvé ailleurs dans les autres scènes de sexe, dans les séries ou même dans les films, c'est au niveau sonore. Je trouve que c'est beaucoup plus hardcore au niveau sonore. On entend des bruits de
mâchouillage.
Des bruits de gorge et des bruits ASMR, de fesses qu'on n'entend pas d'habitude. Quoi.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'il y a un petit côté, un petit potard qui est mis un peu plus fort, quoi, je trouve, là-dessus. Parce que après, on ne voit pas grand-chose. Pas plus que dans les clips de popstar qu'on voit hein, maintenant.
Ou de rappeurs.
Mais je trouve que non, mais niveau. Il y a des choses quand même beaucoup plus suggérées au niveau sonore. Mais je trouve que c'est cliché partout. C'est-à-dire que l'histoire de popstar, c'est pas non plus des grandes surprises. Même la fin, c'est pas une énorme surprise. Mais je sais pas, il y a tellement de c'est pas une success story, c'est l'anti-success story. Moi, ça me plaît, ce truc-là. En plus, heureusement, il n'y a que 5 épisodes. J'aurais pas vu ça sur Plus. Mais je trouve que ça marche parce que elle incarne quand même bien son personnage. Quoi.
Mais du coup, est-ce que toutes les scènes de sexe n'auraient pas pu être gommées et l'histoire un peu réarrangée pour justement parler, je sais pas, d'une relation abusive entre un mec et une meuf dont la meuf
mais
est
ça aurait
une
été fade, justement. Tu vois, t'aurais pas eu le petit côté un peu plus trash. Ça aurait été encore plus cliché, tu vois.
Oui, mais le sexe, c'est pas nécessairement trash. Enfin.
Oui, non. Oui, mais ça aurait rien apporté.
Mais Maxime, il y a quand même plus de scènes d'abus sans sexe qu'avec du sexe, hein.
Ouais.
Les moments où Tedros violente verbalement et psychologiquement Jocelyne, c'est pas la plupart du temps, c'est pas en faisant du sexe, c'est en devant des gens et en le faisant en torturant psychologiquement d'autres personnes qu'elle aime, quoi.
Ouais, j'ai vu cette scène là autour de la table.
La scène du dîner est l'une des meilleures d'ailleurs. Ouais, ouais.
Et aussi, je sais plus si c'est Susanna ou Suzanne Son, la petite là qui joue Chloé, je crois.
Oui.
Qui est très bien aussi.
Oui.
Qui est peut-être le personnage le plus intéressant après tout le reste, mais. Enfin, avant tout le reste.
Oui, parce que c'est la seule... On voit l'emprise de Tedros dessus dès le départ. Enfin, là, c'était l'aspect culte de l'intrigue qui était plus intéressante, mais qui n'a pas été développée. Quoi. Dommage.
Voilà, donc c'est sur Pass Warner. Est-ce que c'est à voir vraiment ou pas?
Moi, je dirais non. Malgré tout, non.
Même s'il n'y en a que 5.
Quand même.
Très bien. L'autre actu au niveau sexe entre guillemets, c'est la fin de Sex Education qui a été donc annoncée fin par la saison 4 si je me trompe pas.
Yes. Ouais.
Mais ça.
Indeed.
Du coup, Sex Education, est-ce que ça a marqué l'histoire du sexe dans la télé ou pas du tout, ou est-ce que c'est déjà tout le monde a oublié Sex Education?
Pour les jeunes, je pense que oui.
Mais pas que les jeunes, je dirais. Enfin, je connais quand même pas mal de personnes de mon âge et je me considère plus comme un petit jeune.
Ton âge.
Mais qui ont regardé la série, donc je me dis que c'est qu'elle a su leur parler aussi. Donc c'était.
Mais leur parler, elle pourra apprendre des choses ou pas?
Oui, moi je pense qu'il y a un véritable aspect éducatif dans la série. Parce que pour le coup, tous les personnages, je les trouve... Enfin, ils apportent quelque chose parce qu'en découvrant des choses, ça fait parler de ce sujet et du coup, ça ouvre la conversation, tout simplement.
Et c'est aussi une série qui est... Enfin, un type de série qui prenait le sexe vraiment comme... comme tu l'as dit, un aspect très, très pédagogique. Mm. C'est la première fois où on voit que ça peut être très, très positif et ça discute de sujets à chaque épisode qui, même moi, à mon âge, me questionne la question du consentement, de ce que veut l'autre. Enfin voilà, il y a plein de choses qui, même si ça fait plusieurs années que tu as une vie sexuelle active, tu peux toujours apprendre et changer d'avis. Et je trouve que la série remplissait vachement bien ce rôle-là.
Je pense qu'elle sera revue plus tard aussi. Hein. Enfin, je veux dire, elle s'arrête, certes, mais en fait, tant mieux.
Si elle disparaît pas de la plateforme, déjà.
C'est clair.
Franchement, je pense pas.
J'ai eu énormément de mal avec l'intrigue de Anshuti Gwata et le mec qui arrêtait pas de l'emmerder, là, où il tombe amoureux.
Oui.
Et en fait, ça m'a sorti du... Parce que j'ai pas trouvé ça pas bien fait... Et même pas très intelligent, en fait. C'était pas très sex-positif, comme vous avez pu le dire.
Oui.
Donc, en fait, j'ai eu du mal à partir de ce moment donné-là. Et je crois que c'est à cause de ça que j'ai arrêté la série.
Ouais, ça, c'est parce que tu connaissais pas Connor Swindles de base, je pense. Les gens qui ont vu les films avec lui avant, je pense que depuis le début, ils savaient ce qui allait se passer avec lui. Sans vouloir.
Oui, mais
plus la relation, parce que c'était vraiment très problématique, quoi. Enfin,
l'histoire fonctionne pas des masses quand même, parce que. Enfin, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Pour moi, c'est la seule de la série qui fonctionne pas comme histoire, parce que c'est trop soudain. Le revirement de. On passe de bully à. T'es mon grand amour de lycée. Et non, ça se passe pas comme ça au lycée quand t'es gay et que tu te fais harceler. C'est pas...
Oui, mais alors ça justement, je suis d'accord, mais ça c'est le côté un petit peu utopique où ça pourrait être sorti d'une fanfiction et voilà, je trouve ça plus, j'ai trouvé ça un peu mignon. Voilà, je le dis.
Mais est-ce que c'est sulfureux ou pas Sex Education, ou est-ce que ça reste
T'as dit quoi, pardon?
Sulfureux ou pas du tout la
série? Non, pas du tout. Pas du tout.
Bah, tout dépend.
Non,
ce que
mais ça cache rien.
Donc elle est plus, oui, comme on dit, pédagogique que démonstrative.
De toute façon, ça va avec le nom de la série. Hein, donc ouais. Si ça n'avait pas été pédagogique, je pense qu'elle aurait été ratée.
Mais par contre, ça ne cache rien. Enfin, la masturbation est un sujet. Ça ne s'arrête pas au pas de la porte où juste tu vois 24 heures après ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, ils évitent pas les choses et ça, c'est assez cool.
Ben, c'est vrai que en regardant, parce que bon, je sais qu'on avait dit qu'on allait regarder Riverdale, mais bon, parce qu'il paraît que ça parle beaucoup de sexe cette saison-là. J'ai regardé et c'est vrai que ça ne parle jamais, c'est très, j'allais pas dire puritain, mais si, peut-être, mais en fait, ça suggère des choses, mais ça n'en parle pas du tout.
Ouais, ça, c'est le pire. C'est parce que c'est prendre des gens pour des imbéciles, ouais, surtout pour les séries teen comme ça, où justement, tu sens que genre il y a toujours une romance derrière, les hormones sont au feu ou quoi que ce soit. Mais pourtant, ils ne montrent jamais rien, alors que les gens ne sont pas bêtes, ils savent ce qui se passe, quoi. Bref.
Et ça n'en parle pas, ça ne cite pas non plus les choses. Par exemple, il y avait une séquence où donc t'as Betty qui, a priori, ne pense qu'à ça, donc elle voit là, un conseiller, des choses comme ça. Et elle se montre, en fait, elle fait un striptease face à Archie, qui lui aussi fait un striptease en fenêtre interposée. En fait, ils se voient de leur chambre. Et en fait, le conseil lui demande, mais combien de fois vous pensez au sexe dans la journée? Et il y a plein de... C'est vrai qu'il y a une séquence de rêve où elle pense à chaque fois, dès qu'elle croise un mec, elle pense qu'elle couche avec, enfin qu'elle couche... qu'elle l'embrasse fougueusement.
Qu'elle le chope, quoi.
Allez. Ouais. Et aussi, elle raconte un rêve où elle est une institutrice avec un gros décolleté et elle séduit un élève, donc Archie, ou un autre, non, je crois que c'est un autre. Et en fait, t'as jamais Archie qui regarde la poitrine, tu vois. C'est toujours plus on montre quelque chose, on dessine quelque chose, une image, mais on ne l'utilise pas, tu vois.
Ça, c'est...
Ça va pas plus loin, c'est très, très, très... coincé, quoi, on va dire.
Faut peut-être aussi replacer les séries dans leur
PG-13.
Pays.
PG-13.
dans leur pays, parce que, enfin, même les séries qu'on regardait ados, One Tree Hill, Dawson, etc. Il y avait toujours un moment où Gossip Girl, oui, il y a toujours un moment où c'est évoqué, mais c'est que effleuré. Et Sex Education est grandement partie ou totalement partie faite au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, ils n'ont jamais eu de problème à dire les choses. Enfin, c'est eux qui ont fait Skins, par exemple, même si Skins avait des problèmes avec la sexualité, au moins on en parlait. C'était là.
Skins, il n'y avait pas de nudité, hein, je crois pas. Hein.
Si, je crois. Il y a des full frontales à un moment. Ouais. Si, je pense.
Alors, c'est sûr, on voit des fesses.
Mm. C'est pas le devant, ça.
Non, mais je pense qu'il y en a. Il y en a.
De la part de qui? De fille ou de garçon?
De mec.
De mec.
Oui. Alors, pas dans les deux premières saisons. Je crois qu'ils sont assez soft dans les deux premières saisons. Mais
je pense à celui-là, celui qui a réussi, là.
Nicolas Soult ?
Jack O'Donnell.
Jack O'Donnell. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Lui, je suis quasiment sûr qu'il en fait. Hein.
Oui, il y avait beaucoup, beaucoup d'intrigues autour du sexe avec lui et avec Effie, Kaya Scodelario. Mmh. Mmh.
Mais dans Sex Education, il y a du topless, je crois, non ?
Gillian Anderson a montré ça ou pas?
Non,
je ne crois pas.
La petite blonde là, celle qui a... La petite blonde rigolote.
La rigolote, oui.
Pas Emma McKay, mais l'autre.
Oui, je vois.
Elle n'a pas une scène de sexe, je crois, dans le premier ou le deuxième.
Ils ont des scènes de sexe. En fait, ils ne montrent pas vraiment les corps dans la série, mais par contre, ils n'hésitent pas à dire ce qui est fait ou à montrer ce qui est fait. Enfin, moi, je me souviens dans les toilettes, il y a des scènes de masturbation où, clairement, c'est une scène de masturbation. C'est pas juste qu'est-ce qui se passe derrière la porte. Et ça, je trouve que ça change.
Et du coup, Sex Education, Riverdale, c'est... pas du tout, Riverdale, c'est pas Netflix, mais...
Oula.
Oui, je sais, déformation. Mais Netflix, son côté sulfureux.
Parce que t'as toutes les
séries. Avec Sex Life, Faux Profil et d'autres. Est-ce qu'il joue là-dessus?
Le truc turc, là, comment ça s'appelait déjà?
365, ouais. C'est téléfilm.
Il y a même eu Obsession aussi,
ouais.
Est-ce que finalement, il se lâche pas un peu ou c'est juste 2-3 titres comme ça?
Non.
C'est un genre, un vrai public.
Ouais, non, elle a raison, Aki. C'est un sous-genre et une nouvelle tendance qui fonctionne de plus en plus chez eux, quoi. Enfin, c'est,
parce que non seulement ça s'adresse aux ados, mais ça s'adresse aussi aux ménagères, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est des histoires de romance et avec des gens qui sont tous plus beaux les uns que les autres.
Et de domination, surtout.
Et oui, clairement.
Donc c'est pas forcément positif la plupart.
Ah non, par exemple, faut profiter, mais c'est problématique as fuck, mais de tous les côtés. Quoi. Mais en fait, c'est The Idol, mais avec des Colombiens. Voilà. Tu crois que la meuf, elle se fait dominer, mais en fait, non, c'est elle qui manipule tout le monde, quoi. Mais bon, mais c'est, non, mais c'est problématique de tous les côtés. Enfin, et puis, en plus, là, pour un truc colombien, ils ont pas le même rapport au sexe que, tu vois, c'est des latins, donc il y a des trucs vraiment très problématiques. Enfin, c'est très chelou, hein. Mais même pas pareil pour la Turquie et même Obsession qui est anglais. Enfin, il y a des fois.
Après, ils le réussissent vachement sur les séries un peu plus teen, je trouve. Le sexe. Ouais. Même LGBT, enfin, même si elles sont Elite. Pas qualitatives.
Ah non, mais Elite, c'est. Ouais, non, j'aurais pu dire Heartstopper, mais bon, après, voilà. Non, mais
Heartstopper, c'est pas du tout dans le sexe.
Non, non, non mais malgré. Mais bah, si, parce que c'est des premières relations.
Oui, mais c'est romance, c'est pas.
Ah oui, non, Heartstopper, c'est comme Love Victor, quoi. Non, tu peux pas mettre.
Non, mais Love Victor, c'est tellement puritain qu'on n'a même pas vu un morceau de peau.
Non, on voit pas un morceau de peau, par contre, il parle de sa.
Oui, de sexualité, oui, voilà.
Oui. Mais Elite, il y a plein de problèmes dans la série. Voilà. Mais par contre, je trouve que la représentation qu'ils font du sexe, c'est toujours des moments joyeux entre les personnages.
Ah ouais, d'accord.
Et ouais, enfin de manière générale en tout cas, même si je suis pas trop pour l'intrigue, j'avoue. C'est présenté de manière joyeuse et je trouve que c'est comme ça dans toutes les séries Netflix qui s'adressent aux LGBT ou aux ados. Je pense même la série avec Neil Patrick Harris. Je me souviens plus comment ça s'appelle.
Uncoupled.
Voilà.
Oui.
Où les scènes de sexe sont très courtes et on voit pas grand chose, mais par contre ils hésitent pas à parler des choses et c'est du sexe qui est positif et c'est cool de voir ça.
À la Sense8 quoi.
Pas autant, mais ouais.
Sex Life, il y avait eu une percée de la série dans les ratings, mais en fait apparemment c'était juste parce que tout le monde devait regarder une certaine scène d'un certain épisode.
Ah bah, Full Frontal.
Et oui, et donc apparemment, c'est ça qui a fait jouer beaucoup les chiffres, et c'est ça qui a fait revoir Netflix son calcul des audiences.
Ah.
Et donc, ouais, c'était juste cette scène-là où il y avait un pénis d'une taille.
Et a priori, c'était pas une prothèse.
Voilà. Et aussi pareil pour Euphoria, il y a une scène fameuse où tout le monde se demandait si c'était un vrai ou faux pénis.
Non, il y en a eu plusieurs, parce qu'à un moment donné, oui. C'était.
Ouais, mais là, dans la dernière saison, je crois.
Ah, ça fait
Du coup, oui, est-ce que Netflix va s'engouffrer dans ce...
Ah ben,
en même temps, c'est tellement pas cher, pourquoi ne se priver, quoi?
Oui, mais est-ce qu'ils peuvent faire de l'américain? Ce bon Sex Life, je crois que c'est terminé, mais est-ce qu'ils peuvent... Ou alors ils vont acheter
bien
ça?
Bien sûr,
oui,
franchement,
parce
Sex Life, il y avait quand même Sarah Chahi, ok, c'est peut-être une C-lister, on va dire, mais elle est quand même elle est reconnaissable, quoi.
Et ça serait intéressant... Vas-y,
vas-y. Je veux dire, j'étais même étonnée qu'elle.
Qu'elle accepte.
Ah, oui.
Non, mais est-ce qu'on peut faire du show américain, quoi?
Bah, ça dépend parce que. Est-ce que les shows sont destinés aux États-Unis? C'est là où je suis pas sûr.
Mais non, clairement. Mais de toute façon, le coup de faux profil, série colombienne qui cartonne dans le monde entier alors qu'il y a zéro promo et que ça. Mais quand je dis le monde entier, c'était vraiment le monde entier. Elle était première en France, elle était première aux États-Unis.
Et pas parce que c'est bien, c'est parce qu'il y a du cul.
Oui.
Et
encore.
165, c'est pas parce que c'est bien. Hein,
non, on te dit que c'est pas bien. Mais il y a peut-être forcément des gens, forcément, hein, qui vont te dire ouais, c'était cool. Et quand j'ai regardé sur Twitter, là, pour voir si c'est moi qui ai halluciné ou pas, parce que je l'ai regardé. Moi, je me suis bien amusé, et même si c'était problématique et débile et con et mal fait. Et qu'il
n'y a pas beaucoup de cul. Hein.
Voilà, au final, t'en avais beaucoup dans les premiers épisodes, et puis dans les 8 qu'il y avait derrière, t'en avais plus. Quoi.
Mais t'en as d'autres, t'as les séries aussi espagnoles et tout comme ça, qui misent un peu beaucoup là-dessus, la vie sexuelle des personnages. Quoi.
Ben oui, mais
quand tu vois After sur Prime, ça se veut chaud parce que c'est quand même des situations un peu chaudes, voilà. Mais tu ne vois rien du tout.
Parce que c'est encore pour un public jeune, ça.
Donc ça titille beaucoup. Bah oui, mais ça titille beaucoup.
Enfin, même pas. Mais par contre, faux profil, les premières scènes de sexe, c'est la première fois que on voit autant. Hein. Enfin, c'était quand même bien, bien chaud, quoi. Ben non, c'était du soft porn, quoi.
Bah, on va y venir à HBO, Showtime et tout ça, tu vois. Juste parce que pour avancer, séquence souvenir, quel acteur ou actrice ou scène même vous a fait prendre conscience de l'existence de vos hormones?
Oh putain.
En gros, vos premiers éveils sexuels en télé, c'est qui?
Je crois que je l'ai déjà dit, mais ça doit être Christine Kruk. Hein.
Ah ouais?
Ah ouais, non mais...
No judgment, hein.
Ah ouais, l'analangue, franchement, voilà quoi.
C'est un anagramme.
Moi, je pense que c'est Tom Welling, donc...
Ah là là,
ça me rassure.
Ah là là.
On va refaire un rewatch de Smallville.
Bah, en mine de rien, quand t'as 13 ans et que tu vois Tom Welling torse nu, oui.
Bah, mais... C'est vrai que tout ce qui était WB au niveau acteur, c'est peut-être là où on s'est rendu compte que les gens de notre âge pouvaient être très 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 beaux.
Oui, surtout qu'ils n'avaient pas du tout notre âge.
Ouais, c'est ça. Oui, en plus, c'est ça. 10 ans, t'es mignon.
Mais, et en plus, non, mais en y repensant, quand t'as posé la question là, pour préparer, je me suis dit, bah oui, forcément, Lana, en plus, j'avais des posters d'elle. Enfin, c'est une catastrophe. Ah, oui. Non, mais c'était une catastrophe.
Enfin, c'est pas la plus sexuée de tous les.
Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Au final, je me souviens même pas de l'avoir vue même en soutien-gorge, quoi. Enfin,
Qu'il y a un épisode où, genre, un peu comme les effets de la kryptonite rouge, cet épisode-là, je me rappelle, il était un peu chaud. Enfin, il était chaud. Façon de parler, quoi. Mais oui, un petit peu.
Oui, ah, mais après, par contre, Erika Durance dans son maillot qui sort du lac.
Ah bah oui.
Voilà.
Erika Durance, c'était quand même l'anti Krug, quoi. Oui. C'était rien à voir.
Oui, mais par contre, cette scène-là où elle sort du lac, je crois qu'elle est imprimée sur ma rétine à vie, quoi.
Mais et Alison Mack entre les deux, bah tout ce qu'elle a.
Non,
fait,
mais Alison Mack, elle a monté une secte. Rappelons-le, oui.
Mais par contre, moi, mes premiers émois, vrais émois, c'est Queer as Folk.
Ça,
UK ou US?
US.
Le premier épisode de Queer as Folk, il est genre hyper hot, quoi. Ouais, je suis désolée. Genre, j'étais what the fuck, quoi. Genre.
T'as 17 ans, tu découvres que t'es gay. Enfin, en tout cas, tu te l'avoues. Cette série, ça fait quelque chose.
Ouais. Moi, c'était un dessin animé, c'était Max et compagnie et Juliette, je t'aime.
Tu m'as fait peur.
Et Ranma 1/2 aussi, surtout, parce que Ranma 1/2, en fait, t'avais beaucoup de scènes de nu, en fait, dans Ranma 1/2, parce que c'est un garçon qui se déguise, enfin, qui se transforme en femme quand il est mouillé.
Et c'était censuré en France. Enfin, beaucoup de passages étaient censurés.
Pas au début. Enfin, tu voyais des seins dessinés, quoi. Donc ça... Quand tu as 10-12 ans, bon, voilà, tu vois ça. Mais après, bon, évidemment, ça a été charme d'Alyssa Milano.
Et c'est ce que j'allais dire aussi. Oui,
parce que là, c'était quand même la WB qui misait vachement sur le physique de ses actrices. Bon, plus charme que les autres, hein, évidemment. Ce Buffy, c'était pas non plus... c'était sexy, mais sans plus, quoi, au niveau des photoshoots, des trucs comme ça. Mais charme, oui, ça joue
à fond. Oui, Alyssa Milano, oui, clairement, oui.
Mais parce que Buffy, ils avaient plutôt choisi d'en faire une métaphore, le sexe. Ils en parlaient.
Non, mais même, la représentation, Sarah Michelle Gellar n'a pas, à part dans les photoshoots.
Mais c'était tout le propos de la série, justement. C'était de ne pas montrer forcément une héroïne qui n'était pas ni désexualisée, ni sursexualisée. Là où Charmed, ils ont un peu plus opté pour, en effet, Alyssa Milano.
Et c'est pour ça que toutes les actrices aussi de la WB ont fait des photoshoots un peu plus poussés pour éveiller un peu les hormones, je pense, du public ado, parce que Cathy Holmes et Michelle Williams, je me souviens qu'il y a eu des photoshoots qui m'ont surpris. Je me dis, ah oui, quand même. Tu te dis, bah oui, c'est pas Joey, c'est pas Jen, quoi.
En fait, c'est fou, on était tous biberonnés au même type de série.
Ah, c'est pas NCIS qui va te...
Mais en fait, je vous avoue, franchement, avec le recul, je remarque que déjà à ce moment-là, j'étais vraiment pas... J'ai pas eu d'éveil, en fait, c'est ça le truc. Voilà, je n'ai pas eu d'éveil.
Pas eu de fantasme télé.
Pas vraiment, je pense.
Après, ça restait quand même soft, faut pas...
Oui, mais après, ton imagination pouvait faire le reste, quoi.
J'ai pas d'imagination par rapport à ça, ça doit être mon souci.
À l'époque, Gossip Girl avait fait sa promo sur du sulfureux.
Plus tard, Gossip Girl, déjà.
Non, mais c'est vrai que toute la promo, même au niveau des photos, tu vois en fait des...
des orgasmes.
Oui, le EXO du générique, il est censé être un peu sensuel, je pense.
Non, et puis quand t'es ado et que tu vois Black Lively dans ces tenues-là, je suis désolé, ça joue quand même vachement beaucoup.
Oui, mais il y a rien de sulfureux.
Je dis pas que c'est sulfureux. La promo est sulfureuse, mais ensuite tu vois des
superbes actrices
avec des trucs très courts ou très décolletés, ça t'éveille beaucoup de choses, quoi. Pas pour les intrigues, par contre.
Ah oui, non, clairement. Mais là où ils ont poussé de bousson, c'était pour la saison 3 avec le plan A3, là, avec Hilary Duff et l'arc d'Hilary Duff. là, ça avait fait avec les donc les affiches où il mimait les orgasmes et tout machin, et puis en parlant de plan A3 tout le temps, et ça avait fait quand même pas mal polémique côté des États-Unis avec le Parent Council, le, je sais plus, le PC1, oui c'est ça, administration, oui. Chain, oui, ça doit être un truc comme ça. Enfin, il y avait eu pas mal de choses. Bon, au final, c'était le truc le plus triste qu'on ait pu voir à la télévision. Il n'y avait pas un morceau de chair, mais bon, voilà.
Puis ils en parlent vraiment même pas. Enfin, c'est déguisé. C'est enfin, il y a pas de sexualité dans Gossip Girl en vrai. Hein.
C'est juste sûr.
Oui, c'est juste que l'utilisation du physique des actrices qui maintenant évidemment pose problème parce que tout ce qui... même dans les frères Scott, quand à l'utilisation de Sophia Bush dans plein de scènes, elle-même le disait quoi. C'est, scènes, alors... j'aurais pas fait quoi.
Oui, mais après le, je trouve que sur la fin du coup, ce traitement-là dans les frères Scott était un peu plus. Elle assumait de, enfin pas d'aimer ça, c'est, elle le disait pas comme ça parce que c'était quand même une série pour ados, mais elle n'avait pas envie de s'excuser pour qui elle était, et je trouve que ça c'est bien de le dire aussi. En fait, t'as le droit d'aimer le sexe et de pas t'excuser parce que t'aimes le sexe, même si c'est dit à mot couvert.
Le personnage cool ou l'actrice?
Le personnage. Et moi, en
non,
tout cas,
c'est
Brooke,
pas Lisa Dushku.
Brooke, c'est le...
Ah, ça me fait penser à ça. Pardon, vous avez mentionné... Merde, comment ça... Sophia Bush. Je m'en rappelle que dans John Tucker doit mourir, il y a une scène... Merde, c'était qui l'héroïne? C'était Brittany Snow. C'était Brittany Snow, l'héroïne. Ouais. C'est ça. Et il y a une scène où elle s'embrasse dans une voiture.
Oui.
Voilà. Je viens d'avoir un flash.
Il était cool, ce film.
Il était marrant, ce film, ouais. Bref, Maxime, merci. Si tu petite sais, parenthèse.
Brooke, la fin de ta phrase.
Je disais que Brooke, pour moi, ça a été... c'est quelque chose que je garde du personnage. Et pour moi, qui est un personnage, en tout cas dans ma série filles, iconique, j'adore ce personnage. Et le fait qu'elle ne s'excuse pas d'avoir eu plein de petits amis et d'avoir aimé le sexe, je trouve ça génial. Moi, ça a changé aussi le regard que je pouvais avoir sur ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut encore jouer sur vos choix de séries? C'est-à-dire, en gros, est-ce que le physique ou l'attraction que produit un acteur, une actrice, peut encore vous faire jeter un œil, même sur une série nulle?
Mais comment on sait si elle est nulle?
J'ai regardé Sex Life avec Sarah Chahi parce que... Et j'ai regardé les deux saisons et tous les épisodes.
Moi aussi.
Je vais absolument regarder la série avec Jonathan Bailey. Donc
Mais elle a l'air trop bien. Pourquoi tu dis absolument? Elle a l'air très bien.
Oui, mais il y a quand même dans la bande-annonce une scène où c'est clairement une scène sexuelle et ils sont à poil. Donc ça m'a encore plus donné envie de me jeter dessus.
Bah oui. J'ai hâte de voir.
Outer Banks pour l'héroïne.
Ah ouais. Mais alors ça c'est un vrai truc. Désolée, je remets ce sujet sur la table, mais
surtout pour toi.
Alors, c'est le truc, c'est que ces gens-là, genre Outer Banks, elle est super jeune pour moi. Et ça je comprends pas. C'est un vrai truc que je comprends pas chez vous. je vous cible. Genre pour moi en fait c'est juste impossible. Genre psychologiquement en fait, je c'est zéro. C'est genre voilà.
Non, c'est vrai que c'est assez problématique quand t'es un peu plus âgé, que tu regardes une série teen, de se dire, bon, en effet, ils sont mineurs, fais attention à ce que tu penses, comment tu le penses, etc. C'est vrai qu'on peut se poser la question.
Ça fait quand même des années qu'on nous présente des mineurs qui ressemblent pas du tout à des mineurs.
Oui, donc, aussi.
Au bout d'un moment,
je suis d'accord. Oui, on est d'accord. Mais justement, c'est le moment de s'éveiller dans l'autre sens.
Bien sûr.
Pour être plus aware. Mais non, enfin, genre, vraie question, genre, est-ce que vous vous posez la question parfois, justement, comme tu dis, elle est quand même mineure, ou elle a genre 20 ans. Dans Outer Banks, elle a peut-être allé 23 à tout casser, quoi, mais, et encore.
L'actrice, oui.
Oui, l'actrice, pas le perso. Le perso est mineur. Donc bon.
Bah oui, non, c'est vrai, oui. C'est vrai, quand je retombe sur Gossip Girl, évidemment, je vois Blake Lively, je dis, elle est magnifique, mais c'est vrai que tu te dis, mais elle avait quel âge à l'époque, quoi. Mais parce que t'as encore ton regard aussi d'ado, c'est ça aussi, c'est pas un regard
non plus de
pervers.
Non, mais c'est vrai, j'ai plus du tout mon regard d'ado, pour le coup. Quand j'étais ado, oui, j'étais... Enfin, genre, je trouvais les gens de mon âge, entre guillemets, les personnages de mon âge plus attirants. Aujourd'hui, c'est genre impossible que je trouve une ado attirante, tu vois. Genre, vraiment, psychologiquement, j'y arrive pas. Ce qui me rassure un petit peu en soi.
C'est que clairement.
Mais tu vois, c'est pareil pour le coup avec Gilmore Girls. Tu vois, quand je l'ai vu il y a 15 ans, c'est vrai que je préférais Rory. En vieillissant, je préfère Lorelai. Je suis sûr que je la regarde dans 10 ans, ça sera Emily qui va me faire plus de l'effet que le reste, quoi.
Non, mais pour le coup, ça veut dire que c'est que ça a été super bien fait, quoi, parce que t'arrives quand même à être attiré par un personnage que tu voyais comme une mère avant, quoi.
Mmh. Oui.
Je trouve ça top.
Oui.
Oui, non, mais c'est vrai, parce qu'en plus dans les interactions, parce que j'ai vieilli, etc., machin, oui, bon, ouais. Enfin bon, après, c'est bizarre.
C'est peut-être aussi là où tu vois les personnages qui sont réussis et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire qu'une ado, elle peut être très sexualisée, mais être autre chose que ça, si tu la regardes des années après, bah, elle sera toujours ultra sexualisée, mais autre chose que ça. Enfin, c'est là quand tu vois que les personnages, ils sont bien faits et que tu utilises le sexe d'une bonne manière, pour moi.
Euphoria Skins, est-ce que c'est le même combat?
Trop de drogue.
Non.
Mais alors, je sais pas, bah, ça c'est peut-être encore une question d'âge, parce que autant quand j'avais regardé Skins à l'époque, franchement j'aimais beaucoup Skins. Je trouvais que c'était une vie que je n'aurais jamais pu avoir et que j'étais genre ravie de découvrir un petit peu en mode de curiosité un petit peu morbide. Euphoria, j'ai genre zéro, enfin genre ça m'intéresse pas en fait, je me dis bah c'est tant mieux, plutôt dommage si c'est la véritable vie de certains ados, mais en fait j'ai plus
mais en termes
aucun...
de quoi, de sexe ou de relation à la drogue, parce qu'il y a quand même beaucoup de, il y a quand même oui,
les deux, hein,
quoi.
Franchement ouais. Les deux.
Oui, parce que je te rejoins qui sur ça, mais là où je différencie Skins de Euphoria, c'est que Skins, le sexe n'était pas qu'un échappatoire ou quelque chose de, que tu utilisais parce que tu étais mal dans ta vie. Et il y a quand même pas mal d'histoires entre les personnages où le sexe est utilisé de manière à, je sais pas, c'est dans une relation, quoi. Et Euphoria, je trouve qu'à chaque fois, même si ça peut dire des choses très intéressantes, c'est... Je suis mal à l'aise devant les scènes de sexe.
Oui. C'était fait pour aussi, hein.
Oui, c'est fait pour. Mais du coup, il n'y a pas un seul instant où je me dis, ah, il y a quelqu'un qui fait du sexe parce qu'il aime ça, parce que c'est
ils ont quel âge dans Euphoria?
17, 18.
Ils sont au lycée, hein.
Oui, 17.
Ça ne choque pas, ça, à qui, du coup?
Moi, j'ai pas regardé Euphoria. Enfin, j'ai regardé
la
première saison et j'ai pas aimé.
Mais Swinney à poil,
moi, je trouve pas, comment ça me choque pas? L'idée, en fait, là, comme vous dites, c'est leur personne. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire?
C'est pas une série pour ados, tu vois, c'est.
C'est ah oui,
c'est l'adulte qui regarde, donc est-ce qu'il y a une sorte de curiosité malsaine à regarder
bah, complètement, pour, à 100%. Et pour moi, tout le enfin, Sam Levinson, c'est ce qu'il représente, en fait, pour moi. Donc, ça va de pair, hein. Si. En revanche, ce que je voudrais dire...
Sam Levinson.
J'espère pas. Il y a aussi le temps qui a passé, et je me demande si c'est pas ça, où on est dans une mouvance de, justement, de sexe positif, de... je le revendique, alors que... Pour l'époque Skins, c'était quand même encore un petit peu, je vais pas dire niais, parce que c'était certainement loin d'être niais, mais il y avait quand même de la véritable romance et tout le monde n'était pas dépressif, même si la moitié l'était, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, mais il y a
Vas-y.
Non, je disais, il y a quand même des séries qui arrivent à présenter et du sexe positif et du sexe qui est utilisé de manière, à échapper à quelque chose ou sur des rapports de pouvoir, des choses comme ça. Enfin, c'est pas parce que tu montres le sexe d'une mauvaise manière, que tu fais une mauvaise série ou que ça va pas être bien. C'est la manière dont tu le fais. Et je trouve qu'il y a des séries qui s'en sortent mieux. Et Euphoria, en fait, en présentant que ça, bah, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'en voir. Et je suis pas sûr que ce soit la réalité de tout ce que vivent tous les ados, quoi.
Préférée Génération à Euphoria, quand même. Hein.
De ouf.
Mais Génération, c'était un peu plan-plan, quand même. Hein. Désolé, non. Mais...
Absolument pas.
Est-ce que vous avez vu la story de Kaia Scodelario, justement, qui jouait Effie dans Skins, qui dit qu'elle était choquée de voir Euphoria, mais après, qui s'est dit qu'à 14 ans, elle faisait pire dans Skins.
Tu m'étonnes. Elle a eu des enfants vachement tôt aussi, Kaia Scodelario, ça m'a toujours fait... Enfin, pas fait rire, mais j'étais... Oh, waouh, elle est genre beaucoup plus jeune que moi, elle a déjà deux enfants. J'étais, waouh. C'est vraiment Effie, en fait. Non, pardon.
Parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie, c'est pour ça.
Oui, ça aide.
Non, mais ça va, oui.
Oh, le shade.
Enfin, après... rien dire, parce qu'on a beau avoir quelqu'un dans sa vie, parfois, c'est pas le cas non plus, quoi. Voilà.
Ouais. Oui, non, mais... Bon, HBO, Showtime et Cinemax ont-ils ouvert la voie au sexe banal?
Banal?
Dans les séries. Ou est-ce que ça a été Sex and the City, Game of Thrones, Californication et j'en passe? Est-ce que c'est des séries marquantes pour le... Le sexe à la télé, ou est-ce que ça a banalisé?
Celle que tu viens de citer, oui. Par contre, Tell Me You Love Me, elle était pas banale et elle était importante pour le sexe. Sur la représentation de la sexualité à la télé.
C'était pas juste putassier un peu?
Ah non, du tout, non. Au contraire. Au contraire, non,
c'est très pédagogue.
Ouais. Et je pense que c'est la seule du catalogue HBO qui doit vraiment se démarquer de ce côté-là, quoi.
Et parce qu'elle n'était pas glamour, c'est peut-être pour ça que.
Oui, qui avait envie de voir Sonia Valger se faire sauter. Mais bon, voilà, mais après. Non, mais c'était très bien. Franchement, c'était très bien. Et par contre, elle aussi, elle a eu le malheur d'avoir un scandale, mais avec son faux pénis qui était utilisé, qu'on voyait, tout le monde se demandait si c'était un acte simulé ou pas simulé. Mmh. Voilà, bon, elle est partie sur du mauvais pied et ça ne l'a pas aidé pour avoir une saison 2, quoi.
Après, moi, je trouve que toutes les séries, elles ont été marquantes. Enfin, je suis très, très critique envers, par exemple, Sex and the City sur ce qu'elle a fait, mais à chaque fois, HBO a su apprendre de ses erreurs pour montrer, être un peu plus qualitatif quand ils montraient du sexe. Et, par exemple, je suis le premier surpris de trouver le début de saison 2 de And Just Like That extrêmement bien fait, justement, sur le sexe et le sexe de cinquantenaire. Et je me suis dit, ah, c'est cool, en fait, c'est qu'à l'intérieur de la chaîne et les showrunners et les scénaristes, ils apprennent, en fait, au fur et à mesure, c'est cool.
Puis Sex and the City, ça montrait, ça parlait, ça citait les choses, quoi. C'est ça aussi.
Oui, comme disait Maxime, pour le coup, c'est peut-être, elle était peut-être plus pédagogue que les autres. Parce que quand je regarde les scènes de sexe, là, tu vois, j'ai refait Les Sopranos, les scènes de sexe dans Les Sopranos, ouais. Bon, tu me diras, c'est pas le truc principal, mais c'est un truc de mal hétéro, plus de 50 ans et avec du male gaze qui est un peu compliqué, quoi. Encore en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal avec ces scènes-là, quoi. Voilà.
Et le sexe dans Shameless, dans Entourage.
Non, Entourage, n'en parlons juste... même pas. Oui. je crois que cette série ne pourrait plus être possible aujourd'hui.
Non, jamais. Enfin, si, mais ça targuerait, ça
a ciblé
un public très très précis. Shameless, j'ai toujours trouvé ça très bien aussi dans l'égalité, dans tout, même les scènes de sexe, que ce soit côté Fiona, côté Jeremy White Allen, dont j'ai oublié le. Ah mon Dieu, merci. Dans tout ça, c'était toujours très égalitaire et toujours très bien fait. Et pareil, un peu différent, très vrai aussi, très authentique.
C'est rarement du sexe très beau, en fait, dans Shameless.
Oui, ouais, c'est ça qui est bien.
Moi, c'est le personnage de Vi et... son mari.
Je sais plus.
Le couple qu'il y a pendant toute la série, c'est justement le fait qu'ils sont en couple et
l'ex-mari de Sarah Chahine,
exactement. Et pendant, enfin, leur relation de couple est aussi basée sur le sexe. Ils discutent de ce qu'ils aiment. Tu le vois souvent. C'est pas juste dans un épisode où on l'aborde. Enfin,
Steve,
c'est pas Steve.
Steve, c'est son vrai nom. Enfin, c'est le nom de l'acteur.
Kevin.
Kevin, c'est ça. C'est Kevin.
Ouais, voilà.
Et ça, j'ai trouvé vraiment... Je trouve que c'est la première fois où on voit vraiment ça. Bon, à part Tell Me You Love Me, où c'était un peu le sujet central. Mais le couple, en fait, il s'arrête pas. On fait des enfants et la vie sexuelle, elle s'arrête là, quoi. Et ça, je trouve... Enfin, je l'avais pas vu ailleurs.
Tout à fait.
Ah, il y a un peu de ça aussi dans Togetherness, aussi, un petit peu, non?
Ouais, enfin, c'était... Oui, non.
Oui, restant chaste.
Et parler du porno dans les séries, comme l'a fait The Deuce, par exemple.
The Deuce.
De douce, en montrant les choses aussi, les éjaculations, les choses comme ça.
Ah ouais, ça allait jusque-là ?
Je crois que.
J'ai tellement pas aimé que je peux pas dire.
Yelena, la sœur, là, comment ça s'appelle ?
Maggie.
Oui, elle a une scène d'éjac facial.
Et alors là, ça a créé scandale pour celle de The Idol. En plus, c'est même pas une scène parce que c'est juste une photo.
Oui, c'est une photo.
D'accord. Okay.
Justement, tout a été fait avec une coordinatrice d'intimité sur The Deuce. C'est la première série à en avoir engagé une.
C'est vrai ?
Ouais. Okay. Et pour le coup, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait dans à la fois The Deuce et Minx.
Oui.
Où ils arrivent quand même à en parler des deux points de vue, du point de vue des hommes et du point de vue des femmes. Donc, je trouve qu'ils arrivent bien à avoir la balance sur le porno des deux regards que tu peux avoir dessus. Elles sont plutôt bien faites pour ça. Mais j'ai pas d'autres souvenirs de séries qui a abordé le sujet.
Ouais. Et est-ce qu'on peut terminer en disant, est-ce que c'est honteux d'aimer le sexe dans les séries ?
Ben non.
Il y a quand même un petit côté voyeur quand même.
Bah, en même temps, c'est le principe de la fiction, hein. C'est un côté voyeur.
Mais il y a toujours des gens qui seront là à te dire, oui, mais en fait, les scènes de sexe, ça n'apporte rien. Ce qui, bon, enfin, moi,
ce
je trouve
qui
ça débile.
C'est vrai
mais...
dans beaucoup des cas. Hein.
Bah, oui, mais alors, à ce oui. moment donné, ne vient pas de dire oui que c'est important.
Il y a plus de séries qui devraient justement utiliser le sexe et qui ne l'utilisent pas plutôt que d'autres.
Oui, en fait, c'est ça. Il faut trouver le juste milieu entre montrer du sexe parce que ça fait partie de la vie et montrer du sexe parce que tu es un vieux pervers.
C'est alors, ça.
C'est... Cinemax, alors j'avais mis dans l'eau avec HBO Showtime, mais eux, ils avaient fait...
Banshee,
mais surtout plein de séries vraiment érotiques.
Ouais. Il y a Dante's Cove aussi, non ? C'est pas eux ?
Ah, mais c'était à l'ancienne, c'était Cinemax, ça, Dante's Cove ?
Non, attends, je peut-être une connerie.
Qui c'est qui avait fait Spartacus ? Parce que Spartacus, il y avait...
Stars, c'est vrai que Stars,
c'est vrai. Stars, la formule, c'était vraiment sexe, sang et léger, quoi.
Parce que Spartacus, en termes de scène de sexe, c'est hard.
Oui, c'est vrai. Entre hommes, entre femmes.
Ah non, c'est Pink TV. Ah non, attends, je te dis une connerie.
Stars, ils avaient quoi ?
Ah non, c'était hier, aux États-Unis. Ok, pardon.
Bah, ils ont Stars, ils ont aussi Outlander, et mine de rien, il y a du sexe dans Outlander, genre beaucoup.
Et beaucoup surtout de viols, des viols en plus, voilà, c'est ça.
Ouais.
Il n'y avait pas Hung. Hung, c'était Stars, non ? C'était pas Stars.
Non, c'était HBO.
C'était HBO, d'accord. Ouais.
Bon. C'est vrai que Hung, ça présentait aussi bien la chose. Hein.
Oui, en plus, c'était.
C'est le cas de le dire,
ouais.
Bah oui.
Donc très bien, eh bien voilà, maintenant on peut vous laisser à vos fantasmes. Imaginez peut-être Stéphane nu
non.
derrière un micro.
Oui, non, ce qui est le cas parce qu'il fait tellement chaud.
C'était le podcast estival, on est tout moite. Merci à tous, on se retrouve à la rentrée pour la saison 10. N'hésitez pas à partager vos meilleures scènes de sexe, non pas dans la vie, mais dans les séries. Parce que bon, voilà. Merci à qui ? Merci Stéphane, merci Maxime.
Avec plaisir.
Mais
merci à toi.
Et sortez couverts. Salut.